Chapitre 9. Sheldon aux aguets. Sheldon eut l'occasion de voir le capitaine le lendemain de bonne heure et lui fit toutes sortes de questions sur son protégé. Il avait trouvé en Valentin un très utile auxiliaire, et pour quelques affaires embrouillées et louches, il comptait sur lui. Son brusque départ le contraria. Le jeune Hawkhurst aurait dû me prévenir de son absence. Quel diable l'a poussé à partir si vite? Il est allé voir une vieille tante mystérieuse à Dorking. Il paraît en espérer quelque argent, répondit négligemment le capitaine. « Si vous avez besoin de lui, je pense que je pourrai le remplacer. »« Très probablement. Mais comment se fait-il qu'il ait une tante à Dorking? Je croyais qu'il n'avait ni parents ni amis dans ce monde, excepté vous. » »« Et sans doute la tante en question, une pauvre vieille parente, dont il doit être un peu honteux, pensionnaire dans quelque hospice. Les espérances de Valentin peuvent se réduire à une douzaine de livres cachés dans un pot. » J'aurais pensé que Hawkhurst eût été le dernier homme du monde à se préoccuper de ses misères. J'étais à même de lui donner beaucoup de travail s'il était resté à Londres. Lui et mon frère George sont intimement liés, il me semble, ajouta gravement Sheldon. Il avait coutume de se défier de son frère et de tous ceux qui le fréquentaient. Je présume que vous pouvez me donner l'adresse de Mr. Hawkhurst. Je puis avoir à lui écrire, ajouta-t-il. Il m'a dit d'adresser les lettres poste restante à Dorking, ce qui semble bien indiquer que la tante doit être domiciliée dans quelque hospice. Ils ne parlèrent plus du départ de Valentin. Paget conclut avec Philippe l'affaire qui l'avait amené et se retira, laissant l'agent de change penché sur son bureau. Il semblait réfléchir profondément et tracer sur son buvard des figures fantastiques. Le départ de ce jeune homme est singulier, pensait-il, et il y a quelque chose là-dessous. Il n'est pas allé à Dorking, car il n'eut pas dit à Charlotte qu'il allait à 150 miles de Londres. Elle l'a probablement pris au dépourvu, et il lui aura dit la vérité. Je suis curieux de savoir si Paget est dans le secret. Il semble assez franc, mais on ne sait pas sur quel pied danser avec un pareil homme. J'ai remarqué que lui et Georges se montraient très proches l'un de l'autre ces derniers temps. Est-ce qu'il y aurait quelque chose entre eux? Ce à quoi Sheldon pensait était fort différent de ce qui occupait en réalité Georges et Valentin. « Je vais aller tout de suite chez lui, se dit-il en se levant et en mettant son chapeau. Je verrai s'il est réellement parti. » L'agent de change appela la première voiture vide qu'il aperçut et moins d'une heure après, il était chez Paget. « Mr. Hawkhurst est-il chez lui ? » demanda-t-il à la fille qui vint lui ouvrir. « Non, monsieur, il vient justement de partir pour la campagne, il n'y a pas 10 minutes. Vous auriez presque pu le rencontrer. »«
Savez-vous où il est allé ? » ?»«
J'ai entendu dire que c'était à Dorking, monsieur. »« J'aurais bien voulu le voir avant son départ. A-t-il pris beaucoup de bagages ? » ?»«
Un simple porte-manteau, monsieur. »
« Avez-vous entendu où il a dit au cocher de le conduire ?»«
Oui, monsieur, à Euston Square. »«
Ah, à la gare de Euston Square. Je vais y aller. »
Il donna quelques pence à la domestique, remonta dans la voiture et lança au cocher « Euston Square, allez comme le vent !»«
Voilà,
il va à Dorking, qui est au sud, et il part de Euston Square, chemin du nord, » murmura Sheldon pendant que la voiture roulait sur le macadam. « Il y a certainement quelque chose là-dessous. » Arrivé à la grande gare, l'agent de change se rendit sur le quai de départ. Il n'aperçut que quelques individus désœuvrés qui flânaient en regardant de temps en temps l'horloge. Valentin n'y était pas. Sheldon entra dans toutes les salles d'attente, au buffet, à la buvette, revint au bureau des billets, mais nulle part il ne trouva le jeune homme. L'agent de change n'était pas content, mais il n'était pas non plus désespéré. Il retourna au quai et s'adressa à un homme d'équipe qui n'avait pas l'air trop bête.
« Quels sont les trains qui sont partis dans cette dernière demi-heure ? » demanda-t-il.
« Un seul, monsieur, le train de 2h15 qui va à Manchester. »
Vous n'auriez pas remarqué dans les secondes un jeune homme brun avec des yeux et des cheveux noirs ? Demanda Sheldon.
Non, monsieur, il y a toujours beaucoup de monde dans ce train-là.
L'agent de change n'insista pas. Il n'aimait pas demander aux autres ce qu'il pouvait faire par lui-même. Il alla droit aux affiches indiquant les trains de départ. Le train de 2h15 était un express qui s'arrêtait seulement à 4 endroits, Rugby, Ullerton, Murford, Manchester.
« Je gage qu'il est allé à Manchester, » pensa Sheldon, « pour quelque affaire de course qu'il veut cacher au capitaine. Je suis bien fou de m'occuper ainsi de lui, comme s'il ne pouvait pas bouger sans me nuire.
Ce que je ne comprends pas, c'est son intimité avec Georges. Georges n'est pas homme à se lier avec quelqu'un sans motif. »
Sheldon quitta la gare et se fit conduire à son bureau. Il était encore très pensif et un peu inquiet.
« Que m'importe après tout ce qu'ils font et où ils vont ?» se demanda-t-il à lui-même, impatienté de sa propre faiblesse. « Qu'est-ce que cela me fait qu'ils soient amis ou ennemis ? Ils ne peuvent me nuire. »
Il se trouva qu'à l'époque du départ de Valentin, les orages de la bourse s'apaisèrent. Le calme était tombé sur l'océan commercial. Ce n'était plus qu'un grand lac tranquille, de telle sorte qu'on se trouvait en présence du plus triste des marchés. Philippe partageait l'abattement général. Sa figure était sombre. Il avait perdu une de ses forces, sa crânerie commerciale. Les envieux et les jaloux le regardaient furtivement, se demandant si Sheldon n'avait pas été atteint par les désastres de cette époque néfaste. Ce n'était pourtant pas ces choses qui pesaient sur l'esprit de Sheldon. Le lendemain du jour où Valentin était parti pour Ullerton, Sheldon, l'aîné, se présenta au bureau de son frère. Il donnait de temps en temps à Georges de petites affaires, tout en persistant à lui refuser de l'argent, et cela lui permettait d'exercer sur lui une surveillance attentive. Ce matin-là, entrant chez son frère sans se faire annoncer, Philippe le trouva en train d'examiner une pièce d'aspect formidable. C'était une grande feuille de papier à dessin, couverte d'un enchevêtrement de lignes, de cercles, d'annotations rouges, noires, de la plus belle écriture. Philippe, dont les yeux étaient perçants comme ceux d'un faucon, avait tout de suite remarqué ce papier et distingué plus d'un mot écrit en caractères plus gros et plus larges avant que son frère eût eu le temps de le replier, ce qui, à vrai dire, n'était pas facile. Les mots « intesta » et « heigas » l'avaient particulièrement frappé.
« Vous paraissez bien pressé de mettre ce document en sûreté, » dit Philippe en s'asseyant sur la chaise destinée au client.
« Pour vous dire la vérité, vous m'avez surpris, » répondit Georges. « Je ne savais qui ce pouvait être, vous comprenez, et j'attendais quelqu'un qui... »
Georges s'arrêta brusquement, puis d'un ton un peu troublé.
« Pourquoi donc mon domestique ne vous a-t-il pas annoncé ?
Parce que je ne l'ai pas voulu.
Pourquoi aurais-je besoin de me faire annoncer ?
On croirait vraiment que vous étiez en train de conspirer et que vos complices sont cachés dans votre tiroir.
À propos de cela, vous êtes très bien avec Hawkehurst.
Tout à fait bien. »
En dépit du sournois « à propos de cela », cette remarque de l'agent de change parut déplacée.
« Je ne sache pas que nous soyons intimes. Hawkehurst semble un garçon très comme il faut. Nous nous voyons, c'est tout. »
Georges, dans ses conversations avec Philippe, rappelait volontiers sa liaison avec le pauvre Tom.
« Hawkehurst vient de quitter Londres, » dit Philippe d'un ton indifférent.
« Oui, je sais.
Quand l'avez-vous appris ?»«
Je l'ai su hier au soir, » répondit Georges, exaspéré par l'indifférence apparente de son frère.
« En vérité, vous devez vous tromper, il est parti hier à 2h. »«
Comment se fait-il que vous sachiez cela ?» demanda Georges.
« Parce que, par hasard, je me suis trouvé au chemin de fer et que je l'ai vu prendre son billet. Il y a quelques mystères dans ce voyage, soit dit en passant, car Paget m'a dit qu'il allait à Dorking. Je présume que lui et Paget ruminent quelque chose. J'ai été contrarié du départ de ce jeune homme, car j'avais du travail à lui donner. Du reste, je le remplacerai facilement. »
Pendant que son frère disait cela, Georges regardait dans un des tiroirs de son bureau. C'était une habitude chez lui d'ouvrir ses tiroirs et de regarder dedans quand on lui parlait. La conversation prit un tour moins personnel. Les deux frères s'entretinrent un peu des événements du jour,
mais elle ne tarda pas à languir cette conversation, et Philip se leva pour s'en aller. « Cette grande feuille de papier que vous avez eu tant de peine à plier est probablement une de vos tables généalogiques, » dit-il, comme il se préparait à partir. « Vous n'avez pas besoin de prendre tant de soin pour me la dissimuler. Il n'est pas probable que je cherche à aller sur vos brisées. Mes propres affaires me donnent plus de tracas que je n'en puis supporter. Néanmoins, si vous êtes enfin parvenu à rencontrer quelque chose de véritablement bon, je ne refuserai pas de vous aider. » George regarda son frère avec un sourire ironique. « À condition que vous ayez la part du lion dans les bénéfices, » dit-il. « Oh oui, je connais votre générosité, Philippe. Lorsque je vous ai demandé de l'argent, vous me l'avez admirablement refusé. » La physionomie de Sheldon s'assombrit quelque peu. Votre manière de le demander était blessante. « Si cela est, je le regrette. Néanmoins, puisque vous m'avez refusé quand j'en avais besoin, il est inutile de me l'offrir maintenant que je ne le demande pas. Il y a des gens qui pensent que j'ai sacrifié ma vie à poursuivre des chimères, et peut-être êtes-vous de ce nombre. Eux et vous pourriez avoir raison, mais soyez certain d'une chose, Philippe, c'est que si jamais je rencontre une bonne chance, je saurai la garder pour moi. » Il y a des hommes qui, fort habiles à dissimuler leurs sentiments dans les circonstances ordinaires de la vie, les trahissent néanmoins au moment décisif. George n'avait aucune raison de cacher ses projets à son frère, mais, pris à l'improviste, il s'oublia et laissa l'émotion du triomphe illuminer sa figure. L'agent de change était plus habitué à lire sur les physionomies que dans les livres, et rien n'est curieux comme d'observer la puissance pratique qu'acquièrent les hommes qui ne lisent jamais. Il comprit la signification du sourire de George, ce sourire à la fois vainqueur et méfiant. « Le gaillard a trouvé quelque chose de bon, » pensa-t-il en lui-même, « et Hawkhurst en est. Il faut que cela en vaille la peine, car il n'eût pas refusé mon offre d'argent. » Sheldon était l'homme du monde le moins capable de laisser voir qu'il avait été ébranlé. « Vous avez parfaitement raison, George, de vous attacher de toutes vos forces à votre bonne chance, » dit-il avec une franchise enjouée. « Vous l'avez attendu assez longtemps. Quant à moi, j'ai mis les doigts dans un assez grand nombre de plats pour pouvoir m'abstenir de les mettre dans les vôtres. Quelques bons morceaux qu'ils me promettent, mon cher ami, et personne ne sera plus heureux que moi de votre succès. » Sheldon donna une tape sur l'épaule de son frère en prenant congé de lui. « Je crois que pour cette fois, je suis plus fort que Philippe, » murmura George. Il enfonça ses mains nerveuses dans les poches de son pantalon, en souriant d'un sourire joyeux qui découvrit ses dents carrées. « Oui, je puis me vanter d'avoir vaincu aujourd'hui. » C'est certainement une chose très charmante que de triompher d'un ennemi, si charmante que le vainqueur oublie généralement de se demander ce que lui coûtera sa victoire. On frappe un homme à terre et on ne se souvient pas que cet homme peut se relever. George, qui connaissait le cœur humain, aurait dû comprendre qu'il devait d'autant plus redouter son frère qu'il venait de le jouer. Philippe n'aimait pas à être dupe et il n'était jamais plus dangereux que lorsqu'il se donnait des airs doux et bon enfant.